L'Aquarius met le cap sur Valence, en Espagne. L'association SOS Méditerranée vient de le tweeter. Elle entame un voyage de 4 jours vers l'Espagne. La météo s'est détériorée. Les conditions de vie des migrants également, alors qu'ils errent entre l'Italie et Malte. En attendant de rejoindre l'Espagne, la chaleur est insupportable. La promiscuité également. La situation est critique. Reportage dans un instant.
Le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un, ça se passe à Singapour. Il aurait permis de faire beaucoup de progrès, selon le président des États-Unis. Pas de détails sur les avancées qui auraient été réalisées pour dénucléariser la péninsule.
Et c'est la toute première rencontre entre le président des États-Unis et le dirigeant nord-coréen après 7 décennies de confrontation entre Washington et Pyongyang depuis la guerre froide. Une longue histoire que nous raconte le choix de la rédaction à la fin de ce journal. Mais avant cela, nous parlerons de la loi Elan sur le logement, un vaste projet de loi qui suscite un tollé auprès des associations de personnes handicapées, car elle fait passer de 100% à 10% la proportion de logements accessibles dans les constructions neuves, moins de logements adaptés donc pour les personnes handicapées. L'Aquarius se dirige vers l'Espagne, le port de Valence. À son bord, 629 migrants, dont une centaine d'enfants et d'adolescents notamment, 7 femmes enceintes aussi, qui devraient donc être accueillies en Espagne, dans le port de Valence. L'association SOS Méditerranée, qui affrète l'Aquarius, vient de tweeter cette information. Ce départ donc vers l'Espagne, si les conditions donc météorologiques s'améliorent de manière continue, pour pouvoir remonter vers le nord-ouest de la Méditerranée. Un voyage de 4 jours. En attendant, les migrants sont coincés à bord de l'Aquarius et leurs conditions de vie sont précaires, Delphine Evenou.
L'Aquarius transporte en ce moment 130 personnes de plus que sa capacité maximale. Une promiscuité forcée pour ces 629 personnes, parmi lesquelles 7 femmes enceintes et des enfants en bas âge. Les hommes restent sur le pont, en plein soleil, sans ombre, sauf quelques toiles tendues. La nuit, ils dorment à même le sol. Les femmes, elles, ont un espace sécurisé, mais pas moins difficile, comme l'explique Annelise Borges, journaliste à Euronews, sur le bateau avec Médecins Sans Frontières et SOS Méditerranée.
Tout simplement, le fait d'être exposé à la chaleur qui est insoutenable, surtout là où les femmes se trouvent, là c'est presque impossible de rester 5 minutes. Certes, ils sont à l'ombre, mais c'est une chaleur insupportable. Et donc, rien que ça, ça a un impact sur l'état de santé de ces personnes-là qui sont déjà très fragilisées.
Hier soir, la marine maltaise est venue ravitailler l'Aquarius. 1 millier de bouteilles d'eau, des nouilles, des collations, de quoi fournir un repas à chacun. Mais l'équipe d'humanitaire s'inquiète aussi de la situation sanitaire. Il y a à bord un homme atteint d'une balle, d'autres déshydratés ou bien très sérieusement brûlés, la peau grignotée par l'essence combinée à l'eau de mer au moment de leur sauvetage le week-end dernier. Des sauvetages qui sont pour l'instant en suspens. Sans l'Aquarius, il n'y a actuellement plus aucun bateau humanitaire au large des côtes libyennes.
Et à l'instant donc, l'ONG SOS Méditerranée qui a affrété ce bateau de l'Aquarius avec 629 migrants à son bord. SOS Méditerranée indique qu'il prend le cap vers Valence en Espagne. De leur côté, les dirigeants nationalistes corses proposent à leur tour d'accueillir le navire de migrants de l'Aquarius. Les migrants qui avaient été rejetés par l'Italie et par Malte, Delphine Evenou en parlait à l'instant, le discours de fermeté du gouvernement populiste italien pourrait être battu en brèche aujourd'hui ou demain avec l'arrivée en Sicile d'un nouveau navire, le Diciotto, appartenant aux gardes-côtes italiens. Il transporte 937 migrants. Le vaste projet de loi Elan sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique passe aujourd'hui le cap du vote en première lecture à l'Assemblée nationale. Après 9 jours et nuits de débats parfois tendus dans l'hémicycle, les députés relayant notamment la colère des associations de personnes handicapées, tollé suscité par l'article 18 de la loi qui fait passer de 100% à 10% la proportion de logements accessibles dans les constructions neuves. Moins de logements adaptés donc pour les personnes handicapées, c'est inadmissible pour Prosper Teboul, directeur général de l'Association des paralysés de France. Il rappelle que dans notre pays, 10 millions de personnes sont atteintes d'un handicap.
Aujourd'hui, une réglementation en France, en termes de contraintes, ne prévoit aucune obligation d'ascenseur pour les immeubles de moins de 4 étages. Ça veut dire que tous les immeubles qui vont jusqu'à 3 étages n'ont pratiquement pas d'ascenseur puisqu'il n'y a pas d'obligation. Donc effectivement, déjà aujourd'hui, la loi telle qu'elle est, on dit 100% de logements accessibles, mais c'est pour les logements qui sont construits avec ascenseur. Bien évidemment, si vous n'avez pas d'ascenseur, vous ne pouvez pas accéder à votre logement. Cette réglementation d'ascenseur obligatoire à partir de 4 étages, elle est pratiquée en Europe que au niveau de 3 pays. Tous les autres sont beaucoup plus favorables. La France, la Tchéquie et la Hongrie. Donc là aussi, c'est la double peine, je dirais, entre le R+3 où il n'y a pas d'ascenseur et le passage de 100% de logements neufs accessibles à 10%, le calcul est très simple. On va sensiblement diminuer le nombre de logements accessibles, que ce soit pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées ou les personnes qui ont temporairement une incapacité.
Prosper Teboul, directeur général de l'Association des paralysés de France, il répondait à Kim Kasmi. La SNCF prévoit de faire circuler 3 TGV et Transilien sur 5 aujourd'hui, ainsi que la moitié des TER, en cette 29e journée de grève contre la réforme ferroviaire depuis début avril. Hier, députés et sénateurs sont parvenus en commission mixte paritaire à une version commune du projet de loi de réforme ferroviaire, ouvrant ainsi la voie à son adoption définitive cette semaine.
7h36 sur France Culture, c'est la suite du journal de Catherine Dutu avec le choix de la rédaction. Et une question, comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à cette poignée de main historique, dit-on, entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour?
Pour cette toute première rencontre entre le président des États-Unis et le dirigeant nord-coréen, après 7 décennies de confrontation entre Washington et Pyongyang, et depuis le tout début de la guerre froide, avec l'effroyable guerre de Corée qui s'est achevée sur un armistice et qui ne s'est donc jamais officiellement terminé. À Singapour, les États-Unis et la Corée du Nord peuvent-elles surmonter leur passé? Une longue histoire faite de méfiance, de tensions et d'accords ratés que nous raconte Frédérico Jardias.
Korea is a small country, thousands of miles away.
Juin 1950, le président américain Harry Truman annonce l'entrée de son pays dans la guerre de Corée. Le conflit fut ravageur, des millions de civils tués, une moitié nord rasée par des bombardements américains massifs. L'aviation américaine déversa en Corée davantage de napalm qu'au Vietnam, écrit l'historien Bruce Cummings, qui explique les ambitions nucléaires nord-coréennes par ce carnage. L'histoire de la Corée du Nord et des États-Unis, c'est ensuite des décennies d'incidents et de négociations nucléaires qui échouent. Les guerres américaines, comme l'invasion de l'Irak, et les insultes, axe du mal, état voyou, achèvent de convaincre Pyongyang de la nécessité de s'armer pour garantir sa survie. Les tensions atteignent un nouveau pic l'année dernière. En Corée du Sud, où 28 000 soldats américains sont stationnés, on redoute qu'une deuxième guerre n'éclate. Séoul et Pyongyang entament alors une détente et l'improbable se produit.
President Trump appreciated the briefing and said he would meet Kim Jong-un.
Sur le parvis de la Maison-Blanche, un émissaire sud-coréen annonce que Donald Trump accepte un sommet avec Kim Jong-un. Jesper Kim, professeur à l'université Hwa à Séoul et auteur d'un livre intitulé « Persuasion, les forces qui influencent les négociations », considère que l'approche trumpienne, certes peu orthodoxe, est efficace.
Les précédentes administrations américaines appliquaient à la Corée du Nord le même modèle que partout ailleurs. Elles utilisaient les mêmes stratégies, que ce soit en Libye, en Iran ou en Corée du Nord. Mais ce que fait Donald Trump, que ce soit volontairement ou par accident, est très adapté à un dirigeant de type stalinien comme Kim Jong-un. Ses expressions comme « petit homme fusée » ou « mon bouton est plus gros que le tien » sont certes des tactiques agressives d'intimidation, mais un dirigeant stalinien comprend cet usage de la force. Et dans une perspective confucéenne, ce que Donald Trump établit, c'est une relation de seniorité. Il dit en substance, c'est moi l'aîné, je suis plus puissant. Et c'est quelque chose que les Nord-Coréens comprennent.
Transformer la relation ne sera pas facile. La Corée du Nord a fait de la haine des États-Unis l'un des piliers de son idéologie. C'est un facteur de cohésion interne qui permet d'unir toute la population derrière l'ennemi impérialiste, accusé des famines, sanctions et autres pénuries qui frappent le pays. Le régime peut-il renoncer à ce bouc émissaire? Peut-être, estime Andrew Abrahamian, chercheur au Griffith Asia Institute et auteur d'un livre intitulé « Corée du Nord et Myanmar, des chemins divergents ».
Cette haine des États-Unis est l'un des principes fondamentaux de l'organisation de la société nord-coréenne depuis des décennies. Il est difficile d'imaginer comment ils pourraient changer ça. Mais je suis sûr qu'un État tel que la Corée du Nord peut suffisamment faire évoluer son récit national pour rendre possible un autre type de relation. On a d'ailleurs déjà vu de tels exemples. Le Vietnam, la Chine, autrefois des États extrêmement révolutionnaires, ont changé leur discours national afin de soutenir un changement de leur politique. Je pense que c'est plus difficile pour les Nord-Coréens d'opérer une telle évolution. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible.
Pour beaucoup d'observateurs à Séoul, la rencontre de Singapour est en tout cas une opportunité unique, le début d'un processus qui pourrait transformer fondamentalement une relation marquée par 70 ans d'hostilité.
Le choix de la rédaction signée Frédéric Ojardias est à retrouver sur franceculture.fr.
Et dans quelques instants, on continue d'évoquer, Catherine, la Corée, ce sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Nous serons en compagnie de Bruno Tertrais, qui est directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique.
Et ce sera juste après ce journal. Elle est morte d'une vie bien remplie, c'est ce qu'a annoncé hier son agent. La célèbre accordéoniste Yvette Horner est morte à l'âge de 95 ans, celle que les Français avaient découverte dans les années 50 sur les toits d'une voiture publicitaire de la caravane du Tour de France. Première femme à remporter la Coupe du Monde d'accordéon. En 1948, Yvette Horner a signé plus de 300 albums et vendu des dizaines et des dizaines de millions de disques. Une carrière consacrée à la musette, mais pas seulement, celle que Jean-Paul Gaultier avait habillée d'une robe bleu blanc rouge, chevelure rousse. Elle avait collaboré avec Michel Legrand, Quincy Jones, Maurice Béjart, avec qui elle avait monté Casse-Noisette en 99. Yvette Horner avait également accompagné Julien Doré ou encore Boy George pour une 7 reprises haute en couleur de Summertime de Gershwin sur le plateau de Taratata. Boy George accompagné d'Yvette Horner sur une reprise de Summertime de Gershwin. La célèbre accordéoniste est morte hier à l'âge de 95 ans. Le temps de ce mardi 12 juin, avant une accalmie promise par Météo France demain, 24 départements sont placés en alerte orange pour pluie et inondations des Pays de la Loire à la Lorraine.